Alors depuis 2 semaines, on parcourt quelques chapitres de ce livre sur l'autorité. Et notre monde souffre un petit peu en ce qui concerne l'autorité en ce moment. Notre monde, notre France, notre Occident surtout. Et donc il y a des partages intéressants. Donc on a vu le chapitre 1 qui a parlé de l'autorité créationnelle. Le titre était L'autorité est une belle création de Dieu, un cadeau de sa part pour partager son règne et sa gloire. Et l'autorité vient donc du Dieu créateur. Il exerce de façon transcendante des choses qu'il impose à l'homme, en quelque sorte, on pourrait dire qu'il le dépasse, hein, comme cette déclaration de ne pas toucher un arbre dans un merveilleux jardin. Il y en avait un, il ne fallait pas lui toucher. C'était un ordre qui était transcendant, une autorité, manifestation d'une autorité transcendante, mais également immanente. Dieu était également avec Adam et Ève et il voyait ce qu'il faisait. Et il y a les deux dimensions dans l'autorité de Dieu, à la fois un peu au-dessus de nous et à la fois à côté de nous. L'autorité bien exercée est une bénédiction pour tous et pour chacun. Ça, c'était le deuxième point qu'on avait vu. Et l'autorité bien exercée également, elle a pour conséquence que l'on a envie, tant qu'on est soumis à cette autorité bien exercée, on a envie de connaître Dieu. J'ai réfléchi à une illustration de personnes qui ont bien utilisé leur autorité dans ce sens-là. Est-ce que vous avez entendu parler de Jean-Frédéric Oberlin? Était un homme qui a vécu entre le 18e et le 19e siècle. C'était un pasteur qui est arrivé en Alsace, dans une région qui était un peu délaissée, complètement délaissée, même avec des villageois qui travaillaient là. Ils étaient dans des très mauvaises conditions de vie. Et il a eu à cœur de mettre toutes ses compétences pour ces gens-là. Et il les a encouragés à faire des routes de communication, à faire de nouvelles techniques d'agriculture, d'irrigation. Il a œuvré dans une multitude de domaines. Il a ensuite encouragé l'artisanat, il a encouragé l'instruction. C'est lui qui a inventé l'école maternelle, parce qu'il voyait que les enfants, ils étaient là, bénéficiaient pas de bien de leur temps. Alors il s'est dit, si on avait des dames formées pour les enfants, ce serait bien. Elles pourraient en même temps leur faire des choses intéressantes et les entraîner à des choses didactiques, leur éveiller, voilà, faire le travail qu'on fait dans une école maternelle. Donc c'était lui il a apporté tout ça. Et le village, il y avait 80 familles quand il est arrivé là. Et à sa mort, il y en avait 3 000. Et donc le pays a connu une complète prospérité. C'est une belle illustration de l'autorité créationnelle, l'autorité qui est une bénédiction pour tous. Chapitre 2 était plus triste. C'était l'autorité déchue, toxique, usurpatrice. Et le titre était L'autorité est le sinistre stratagème de Satan pour supplanter Dieu. On a vu que celui qui abuse de son autorité, en fait, quelque part, il se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu. Il n'écoute plus les autres. Il est un peu omniscient. Et il veut tout contrôler, un peu omnipotent. Et il se voit qualifié pour déterminer ce qui est bien et mal. Il se voit juste. Et également, il exige les honneurs des autres. Il se voit glorieux. Il se prend pour Dieu. Et malheureusement, cette autorité qui est corrompue, elle va détruire au lieu de construire. C'est l'inverse de l'autorité créationnelle. Elle détruit au lieu de construire. Et elle donne une image faussée de Dieu. C'est ça qui est le plus grave. Et donc, il a défini au chapitre 2 l'abus. Qu'est-ce que c'est l'abus? C'est utiliser son autorité pour faire du tort. Chaque fois qu'on a tous une parcelle d'autorité, quand on utilise cette autorité pour faire du tort, c'est un abus. Et il a défini l'abus spirituel, qui est justifier un abus en utilisant la Bible ou le nom de Dieu pour cela. Alors, l'actualité nous donne un triste exemple en ce moment de ce que c'est que cet abus et cet abus spirituel. Quand on regarde l'actualité, hein, on a l'émergence aux États-Unis d'un mouvement qui est ça s'appelle le nationalisme chrétien aux États-Unis. Et voilà. Et donc, il se commet des choses qui sont pas normales, qui sont comme trouve que c'est des, voilà, ils abusent de leur autorité. Et également, le malheur, c'est qu'ils font ça en priant, en mettant la Bible en avant. Et donc, en faisant ça, ils font du tort, beaucoup de tort à l'évangile, et beaucoup ont une mauvaise image que de la personne de Dieu et de la façon dont on veut qu'on exerce l'autorité. Donc ces choses-là sont pas très éloignées de nous. Et le chapitre 3 va porter sur l'autorité rédemptrice. C'est l'autorité qui va chercher le pécheur là où il se trouve et qui paye le prix, qui paye le prix. Elle s'est sanctionnée, mais elle sait aussi faire grâce. Et le parfait exemple, c'est Jésus-Christ. Voici le titre du chapitre 3. C'est par l'autorité que Christ sauve et rachète. Et on va commencer, comme habituellement, par un témoignage. On avait vu l'histoire d'Alice, l'histoire qui avait été soumise à une bonne autorité, l'histoire de Tammy qui avait été soumise à une autorité catastrophique. Et maintenant, c'est l'histoire d'Alice, c'était la semaine dernière. Angela, Alice et maintenant Tammy. Comme Angela et Alice, Tammy a la quarantaine et elle est mère de 3 enfants. Elle travaille dans une école chrétienne, elle est membre d'une église et son mariage est heureux. Pourtant, en entendant le récit de son enfance, vous serez estomaqué, vous aurez le souffle coupé. Voici un bref résumé des faits. Tammy est née d'une mère célibataire âgée de 19 ans. Un homme épouse cette femme, aménage chez elle et elle y installe sa maîtresse et ses enfants. Ce beau-père apprend à Tammy le travail à la dure en usant de menaces. Il bat son épouse ainsi que sa maîtresse. Il fracture un jour la mâchoire de sa mère. Il lui interdit d'aller à l'hôpital. Il viole régulièrement la mère et la maîtresse. Il bat également Tammy depuis ses 8 ans jusqu'à ses 15 ans. L'oncle et le grand-père, du côté du beau-père, abusent sexuellement de Tammy au cours de ces mêmes années. Alors qu'elle n'a que 8 ans, l'oncle exige, par exemple, qu'elle le rejoigne dans son lit avec sa femme. Le beau-père la force à se déshabiller, puis la bat avec une cravache. Des camarades d'école voient les cicatrices sur le visage de Tammy, alors âgée de 15 ans. Lorsque Tammy retire sa chemise, l'infirmière scolaire pleure. Les juges adressent un avertissement au beau-père, mais renvoient Tammy chez elle et les coups continuent. Plus tard, Tammy découvre que son beau-père n'est pas son père biologique et ça n'en finit pas. Comme je l'ai dit, cette histoire m'a laissé sans voix. Seigneur, pourquoi ? À l'âge de 16 ans, Tammy est placée dans une première famille d'accueil, puis dans une deuxième, puis chez son grand-père maternel, où vivent également ses tantes, ses cousins et leurs petits copains. Il s'agissait également d'un environnement sexuellement débridé, mais elle se sentait en sécurité sur le plan physique. Finalement, elle déménage chez une amie du lycée, dont le père est adjoint au commissaire de police. C'est lui qui avait fait intervenir les services de protection de l'enfance lorsque sa fille lui avait raconté l'histoire de Tammy. Sa femme et lui n'étaient pas chrétiens, mais c'était un protecteur loyal. lorsque Tammy a emménagé chez eux pendant sa dernière année au lycée, il lui a appris à conduire, l'a aidé à remplir des formulaires d'inscription pour l'université. Il est devenu le père qu'elle n'a jamais eu. Elle dit, il m'a considéré comme l'un de ses enfants. Je souffrais de graves troubles émotionnels et j'étais une épave spirituelle. Je menais une vie sexuelle débridée. Malgré tout, en se repensant à cette époque, elle affirme, je remercie le Seigneur pour sa grâce souveraine qui a touché le cœur de cet homme et de sa femme afin qu'ils hébergent une jeune fille de 16 ans qui traînait tellement de casseroles. Tammy a eu cette réaction quand elle a commencé à raconter son passage de l'adolescence à l'âge adulte. Elle a considéré les terreurs de son enfance comme la toile de fond de sa véritable histoire et de son identité. Selon elle, la petite fille qui avait quitté cette maison s'était transformée en une femme caractérisée par l'orgueil, la colère, la manipulation, un besoin idolâtre de contrôle ainsi qu'une vie sexuelle déréglée. Si le péché engendre le péché, elle était devenue à certains égards comme son beau-père. Et Tammy était davantage préoccupée par son propre péché que par son beau-père. Apparemment, Tammy considérait son beau-père comme un enfant du diable. L'autorité démoniaque, a-t-elle ajouté, ne nourrit pas. Elle n'est pas source de vie. Elle fait des promesses, mais elle ne conduit qu'à la mort. Elle opprime, exerce la violence pour son propre bénéfice. Le cœur s'endurcit et la personne ne ressent plus rien. À l'instar de son beau-père, elle est devenue une travailleuse acharnée. Elle a obtenu un diplôme de fin d'études secondaires avec les félicitations du jury et a brillamment réussi son cursus universitaire. Dès les premières années de sa carrière, elle a commencé à gagner sa vie. Elle a acheté sa première maison aux alentours de 25 ans. Et pourtant, elle vivait aussi, selon ses mots, une vie de rébellion et de perversité. Elle désirait ardemment l'attention des hommes et pouvait mentir, manipuler ou se servir de l'argent pour l'obtenir. Elle vivait dans un environnement sexuellement perverti avec un homme. À cette époque, un ancien petit ami devenu chrétien l'a invitée à l'église. Elle s'y est rendue. Elle s'est finalement repentie de son péché et a placé sa confiance en Christ. Elle est devenue chrétienne. On va maintenant ouvrir le psaume 72, si vous voulez le prendre dans vos Bibles. Salomon, c'est un psaume de Salomon. C'était un grand roi qui a amené la justice, la paix et la prospérité en Israël. Et sa sagesse était sans aucune pareille, nous le savons à travers les récits de la Bible. On a regardé ça ensemble il n'y a pas si longtemps. Mais ici, ce grand roi, il rend hommage à un roi plus grand que lui et auquel il se soumet avec joie. On voit une structure en chiasme, psaume 72, on va lire les versets 5 et 11. C'est les versets du centre, ils décrivent le bonheur d'une autorité bienfaisante qui apporte la prospérité et est universellement acceptée, les versets 5 à 11. Et de part et d'autre de ces versets 5 à 11, on y explique pourquoi. Et on voit de 1 à 4 que le roi exerce une justice parfaite. Et au verset 12 à 15, on voit que le roi est d'une gracieuse bonté envers les malheureux et les pauvres. Et donc entre les deux, il y a l'expression du bonheur universel. Et la fin du psaume est consacrée à la bénédiction de ce roi qui est tout à la gloire de Dieu. Alors on va lire les 4 premiers versets. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple, les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. C'est-à-dire, c'est celui qui fait des fraudes, des abus et des maltraitances, pour le traduire ainsi. Garantir la justice est au cœur de la fonction du roi. Cette fois, le mot, dans ces quelques versions, il est mentionné le mot de la justice. Il rend justice aux malheureux, aux pauvres, aux faibles, aux victimes d'abus. Et il ne se contente pas, comme il est roi, de rendre la justice, il exerce aussi l'exécution des peines, il écrase les oppresseurs. Un roi qui fait justice. Les versets suivants, 5 à 11, on voit ses bienfaits, les bienfaits de cette justice. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur une terre fauchée, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou, ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront leurs offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribus. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Une autorité universellement reconnue. La terre entière lui est entièrement soumise et volontairement soumise. Les justes s'épanouissent et il y a abondance de bonheur. Et le verset 12, car, il commence avec un petit car, il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux, que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre, et il sauvera la vie des pauvres. Il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Un roi qui paye le prix. Il délivre, il a pitié, il sauve, il rachète les pauvres, les malheureux, les laissés pour compte de la terre entière. Verset 14, il rachètera de l'oppression et de la violence. Ce mot se racheter, ça fait mention à la rédemption. C'est le rachat d'une personne qui était esclave d'un maître malveillant et cruel. Dans la loi de Moïse, il y avait la possibilité de racheter une personne qui s'était vendue comme esclave. Lorsqu'il y avait une personne qui mourait, il y a également le vengeur de sang. C'était toujours un membre de la famille qui était le rédempteur. Et donc, ce roi qui rachète ces pauvres, ces malheureux, ce roi qui les rachète, il doit rentrer dans la famille, il doit s'humilier, il doit être de la famille, de la victime, de ce pauvre qu'il veut sauver. Et c'est également lui qui doit payer le prix du rachat. Jésus-Christ est venu en roi serviteur que Salomon appelle de ses voeux. Et on connaît l'histoire de Jésus dans ses échanges avec Pilate. Jésus affirme sa royauté éternelle. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean 18, 36, 37. Et lorsque ses disciples recherchaient les honneurs du royaume de Dieu, Jésus leur a répondu: vous savez que ceux que l'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent, que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, en prix de rachat, pour beaucoup. Marc 10, 42, 45. L'autorité supérieure de Jésus était évidente à travers ses paroles, à travers ses actes. Jésus, il a tout dirigé et il a même dirigé sa propre mort. Quand il s'est présenté comme le berger d'Israël, celui qui allait conduire, qui conduisait son peuple, le berger promis, en Ézéchiel 34, il a dit « Je suis le bon berger » et il ajoute « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, 11, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La soumission et le sacrifice de Jésus constituent un acte d'autorité. L'exercice de la bonne autorité expose à recevoir de mauvais traitements, alors que l'exercice de la mauvaise autorité, elle, inflige des mauvais traitements. Voyons voir la suite du témoignage de Tammy, comment l'autorité rédemptrice a porté des fruits dans sa vie. Ça avait déjà commencé, puisqu'on a vu cet homme qu'il avait recueilli chez elle, dans sa famille, qu'il avait en quelque sorte adopté comme son enfant. Les premiers pas de Tammy dans la vie chrétienne ont été extrêmement difficiles. Ses luttes contre la colère sont devenues évidentes, tout comme son idolâtrie pour obtenir l'approbation des hommes et son comportement manipulateur. Elle passait d'une relation à une autre, puis elle a rencontré Tommy. Il était différent de tous les hommes qu'elle avait connus jusque-là. Lors d'un événement organisé par l'Église pour les célibataires, j'ai partagé mon témoignage, celle qui parle, de ce qui m'est arrivé. En l'entendant, Tommy a su qu'il voulait être un ami proche. Il a prié, demandé à Dieu de l'aider à être un ami fidèle, ce que nous avons été pendant environ 3 ans. Il passait du temps avec moi pour apprendre à me connaître. Ensuite, nous avons entamé une phase de fréquentation amoureuse. C'est lui qui prenait toutes les initiatives. Je n'étais pas du tout habitué à cela. En général, c'était moi qui prenais les choses en main. Il était également le premier homme à me traiter avec dignité et respect. Il n'était absolument pas question de sexe. Plusieurs de ses pasteurs et de ses amis lui ont déconseillé de m'épouser en raison de mon lourd passé. Ils avaient entendu parler de mes relations passées. Mais il leur a répondu qu'il était sûr de lui. Il a déclaré qu'il était convaincu que le Seigneur serait avec nous. Et finalement donc, ils se sont mariés. Ceux qui les avaient découragés n'avaient pas entièrement tort. Les 10 premières années ont été difficiles. Je ne savais pas comment m'y prendre dans ma relation avec quelqu'un comme Tommy. Je ne savais pas comment m'y prendre pour agir conformément à la volonté de Dieu. Grâce à Dieu, Tommy s'est montré très patient. Je ne savais pas comment communiquer d'une manière agréable à Dieu. Je me mettais régulièrement en colère. Je ne savais pas comment me soumettre. J'étais persuadé qu'il allait me quitter comme tous les autres. J'ai entendu ce mensonge prononcé par des psychologues ou des amis du lycée. Tu n'as rien fait de mal et aussi tu dois te préoccuper que de ton bonheur, de ton confort, de ta sécurité. Après ma conversion, cette façon de penser me mettait en colère contre Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi il avait permis des circonstances aussi terribles m'arrivent. J'ai donc rejeté la faute sur Dieu. Pourquoi ne m'as-tu pas secouru? Au niveau relationnel, je suis donc devenue extrêmement codépendante, comme on dit. Dieu, lui, appelle cela de l'idolâtrie. Je devenais extrêmement exigeante et envahissante sur le plan émotionnel. Pourtant, Tommy ne m'a pas laissé agir ainsi avec lui. Il ne me laissait pas l'idolâtrer, ni lui, ni notre mariage. Il me ramenait sans cesse aux Écritures et priait pour moi. À l'époque, je voyais cela de mauvais œil, pensant qu'il était mal intentionné, mais il m'aimait. Et il ne me laissait pas le manipuler. Au début de notre mariage et même pendant notre lune de miel, je me levais tôt le matin et je me souviens que je le voyais lire sa Bible et prier à genoux. Je pense que c'est ce qui a permis à notre mariage de tenir bon. La grâce de Dieu, agissante par l'intermédiaire de l'Esprit-Saint et de la parole de Dieu, nous a soutenus. Au début de leur mariage, Tommy et Tammy ont été membres de plusieurs églises dysfonctionnelles. Mais ils ont fini par rejoindre une église en bonne santé. Et puis une autre encore. Dans ces deux églises, les anciens exerçaient leur autorité de manière responsable. Comme son mari, Tammy reconnaît que les pasteurs de ces deux églises l'ont aidé à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Elle dit « Ce qui nous a frappé dans les deux dernières églises que nous avons fréquentées, c'est que les anciens et les pasteurs conduisent le corps de Christ avec un grand sérieux. Tommy et moi n'avions pas vécu cela dans les églises précédentes. Nous étions habitués à des responsables égoïstes, autoritaires, qui ne pensaient qu'à utiliser leur autorité pour leur propre avantage et non pas pour servir Dieu et les autres. Ils disaient des choses comme « Je suis le pasteur, vous devez faire ce que je vous dis » ou encore « Je connais la Bible mieux que vous. Vous n'avez donc pas à vous remettre en question de ce que je dis ou des décisions que je prends. » C'était aussi l'attitude de mon beau-père. Impossible de le remettre en question sans qu'il y ait des répercussions. Qu'est-ce qui était différent dans ces deux églises? C'était une soumission authentique à la Seigneurie de Christ qui régnait parmi les responsables. Ces hommes accordaient une grande importance à l'obéissance à la parole de Dieu. Tommy et moi étions très surpris. Ils se souciaient sincèrement de nous, et cela se voyait à travers les services qu'ils rendaient à notre famille, souvent au détriment de leur propre confort ou de leur tranquillité. Elle continue en citant des exemples. Et conclut ceci. S'il est vrai que le Seigneur a utilisé Tommy et son autorité pour m'aider à traverser bien des épreuves, je souligne également la bonté du Seigneur envers nous. Il nous a donné des églises engagées à enseigner la saine doctrine, à exalter Christ et sa souveraineté, à exercer une autorité qui s'appuie sur l'exemple de Christ. Tommy et moi sommes des personnes qui sommes aujourd'hui à la faveur de ces instruments de grâce. L'exercice de l'autorité rédemptrice est un équilibre entre la justice et la grâce. On a vu le psaume 72 commence à s'articuler entre un roi qui était juste et un roi qui payait le prix, qui allait racheter les malheureux. À la fois donc transcendant et à la fois immanent. Et chaque fois que nous avons à exercer l'autorité, il y a cette difficulté à savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant. Est-ce que je dois être sévère ou est-ce que je dois sanctionner, est-ce que je dois punir ou est-ce que je dois au contraire passer l'éponge et payer le prix. Quand on est salarié d'une société, des fois on fait des bêtises et là le manager a le choix, qu'est-ce qu'il va utiliser, comment il va faire, est-ce qu'il va couvrir la chose. C'est lui qui prend la responsabilité, c'est lui qui devra payer pour la faute qui a été commise ou est-ce qu'il doit sanctionner la personne. Et dans l'éducation également des enfants, ça se retrouve souvent, mais comment je dois faire? Est-ce que je dois passer là-dessus? Ou est-ce que non, ça, il faut s'arrêter et il faut que les choses soient claires et ça mérite une sanction. Un équilibre entre la justice et la grâce. Les deux sont nécessaires dans un monde déchu et donc il nous faut de la sagesse pour cela. Les envoyés de Dieu vers Tammy, plusieurs autorités ont été envoyées vers Tammy pour la restaurer. C'est Dieu qui a fait ça. non pas une seule autorité, mais plusieurs autorités qui se sont succédées dans sa vie, les unes à la suite des autres, ou en parallèle les unes avec les autres. La rédemption de Tammy est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé vers Tammy le père de son ami. Il a accepté Tammy et tous ses problèmes dans sa maison. Il a dépensé du temps, il a dépensé de l'argent pour elle. Et c'était indispensable pour lui venir en aide. Et on le sait souvent, quand on va aider une personne, c'est incontournable. Il va y avoir un prix à payer. Il va y avoir un prix à payer. Dieu a envoyé Tammy, a envoyé vers Tammy, Tommy, donc un homme qui allait l'épouser. Et il a fait lui-même un choix de vie difficile. Il a dû apprendre la patience, la persévérance, la grâce, l'humilité. Dieu a envoyé également vers Tammy des pasteurs et des anciens et leurs épouses. Ils ont donné leur temps, leurs efforts. Et pour la plupart, n'ont pas vu le résultat de leur travail, de leur investissement. La transformation de Tammy a en effet été lente depuis sa conversion, et donc il y a plusieurs acteurs qui sont venus, que Dieu a envoyés, et ainsi le Seigneur agit souvent dans nos vies en envoyant des personnes différentes. C'est l'œuvre de Dieu. Tammy a été transformée depuis sa conversion, et voici ce qu'elle dit de sa vie avant et de sa vie passée, depuis sa conversion. Avant, je ne faisais pas confiance à l'autorité et au leadership de Tommy. Maintenant, j'ai compris que Dieu est souverain et je fais davantage confiance aux décisions de Tommy. Avant, j'étais très en colère. Je m'attendais à ce que les responsables me disent « Je suis responsable, tais-toi ». Je participe aux conversations avec une attitude agressive. Mais Tommy n'est pas ce genre de responsable. Aujourd'hui, je parle avec respect dès le début. Je ne cherche pas mon propre intérêt, mais plutôt à exprimer mon avis et à laisser Dieu déterminer si Tommy entend ou pas. Avant, j'étais en compétition avec Tommy. Aujourd'hui, je cherche à lui être complémentaire et à encourager son autorité. Avant, j'étais verbalement violente envers mes enfants. Ils ont gardé des souvenirs de cette époque. Aujourd'hui, je suis très attentive à ma manière de communiquer. J'essaie de ne laisser sortir de ma bouche aucune parole malsaine, mais seulement des paroles de grâce. Récemment, je me suis sentie interpellée par une prédication. Ma fille s'est penchée vers moi, a essayé de m'encourager en me disant « Tu n'es plus du tout comme avant ». J'ai appris que mes enfants n'ont pas besoin de voir une maman parfaite, mais une maman qui grandit dans la grâce et la puissance de l'Évangile. Ils n'ont pas besoin de voir ma perfection, ils ont besoin de voir ma progression. Avant, je critiquais et jugeais constamment les autres. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas quelqu'un qui s'est encouragé. Il m'est difficile de faire remarquer ce qui ne va pas, mais je m'efforce d'être pleine de grâce et bienveillante. J'essaie de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de bénir. Avant, j'éduquais mes enfants uniquement pour obtenir leur obéissance et leur respect. Aujourd'hui, je voudrais qu'ils apprennent à aimer Dieu et à se soumettre à son autorité. Et m'obéir en fait partie, oui, mais c'est Dieu qui est au centre et non moi-même. Avant, la relation mère-fille avec mon aîné était difficile parce que je n'avais jamais pu établir un lien avec ma mère, avec ma propre mère. Lorsque ma fille souhaitait un câlin, ma réaction était froide et mécanique. Je ne savais pas à quoi ressemble la chaleur et l'amour maternel. Maintenant, ma fille sait que je suis comme ça et elle me fait grâce. Elle aime faire des choses de fille et moi non. Mais oui, nous allons faire du shopping et testons du maquillage. J'aime beaucoup l'observer faire ces activités que je n'ai pas pu faire quand j'étais enfant. L'effet de la rédemption. Vous avez remarqué le temps que ça a pris. Il ne faut pas être pressé. Tammy explique pour d'une très belle manière, elle explique l'importance de la soumission à la fin de son témoignage. Et je voudrais vous lire cela, parce qu'elle l'exprime très bien. Je ne comprenais pas bien les concepts d'autorité et de soumission. Je pense que cette incompréhension n'était pas due aux exemples dysfonctionnels que j'ai eus dans mon enfance, mais plutôt un manque de compréhension de l'Évangile. La soumission est au cœur de l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur et Maître. Je suis un pécheur à qui Dieu demande de se détourner de son péché et de se soumettre à son Fils Jésus-Christ en tant que mon Seigneur. Il m'ordonne de le suivre fidèlement en obéissant à sa parole par la puissance du Saint-Esprit. Je suis esclave de la justice de Jésus-Christ. C'est pour cela, me semble-t-il, que beaucoup de gens ont du mal à croire à l'Évangile. En effet, des êtres humains pécheurs n'ont aucun désir, sinon par la grâce de Dieu, de se soumettre à Dieu. Nous aimons être aux commandes, mais Jésus appelle les pécheurs à s'humilier, renoncer à eux-mêmes et à faire passer les autres avant eux, afin de le glorifier, de l'exalter. C'est pourquoi une compréhension juste et biblique de l'autorité de la soumission est enracinée dans une compréhension juste de l'Évangile. Avec un faux Évangile, ou même une version diluée de l'Évangile, les gens ne refléteront pas et ne pourront pas refléter une véritable autorité et une véritable soumission biblique. J'ai entendu un pasteur que j'apprécie beaucoup dire « La soumission est le chant de l'amour. » Je lui ai dit que c'était un chant que je voulais apprendre à chanter du mieux possible pour le Seigneur. Voilà la façon dont se termine le chapitre. Alors la prochaine étape, donc on a vu l'autorité de rédemption qu'on vient de voir, je rappelle en miroir l'autorité créationnelle qui est le but ultime de Dieu par rapport à l'autorité. L'autorité est une belle création de Dieu, un cadeau de sa part pour partager son règne et sa gloire. Partager son règne et sa gloire. La prochaine fois, on va voir la façon dont s'exerce l'autorité dans différentes situations. Jonathan Liman fait la distinction entre l'autorité de conseil, l'autorité qui est à l'œuvre dans l'Église, la relation entre les responsables de l'Église et la communauté, c'est une autorité de conseil. Autorité de conseil également entre le mari et son épouse. Et l'autorité de commandement, donc l'autorité de conseil n'est pas contraignant. Et l'autorité de commandement qui est contraignante, qui concerne les autorités civiles, qui ont une autorité contraignante, elles portent l'épée. La congrégation, la communauté, l'ensemble des membres de l'Église locale qui ont une autorité également contraignante dans les décisions qu'ils prennent. C'est la communauté qui possède les clés. Et également l'autorité des parents sur leurs enfants qui est aussi une autorité contraignante, qui est l'autorité qui est représentée par la Vierge. Et donc, on verra tout cela, je vous l'ai la semaine prochaine. Autorité de commandement et donc autorité de conseil. Seigneur, aide-nous à être des personnes qui exercent une bonne autorité, comme le Seigneur Jésus en nous inspirant de lui, à la fois prêt à faire grâce, et à la fois également de ne pas faire de compromis avec la vérité et la justice. Aide-nous, Seigneur, pour cela, dans chacun là où nous sommes à notre place. Aide-nous également à comprendre ce que tu entends par la soumission et comment tu as donné l'exemple parfait d'une personne qui avait toute autorité et qui en même temps est entièrement soumise à ton Père céleste. Fais-nous grandir dans cette compréhension et que nous puissions nous aussi, à notre niveau, contribuer au bonheur et à la croissance et à la bénédiction des personnes que tu mets sur notre chemin. Dans le nom de Jésus. Amen.